tous les mois sur Fréquence Mistral, retrouvez votre émission littéraire Des coups au cœur. Émission proposée par Anne-Marie Smith et Tiziana. L'association Littéra 05 vous propose de voyager au gré des pages et de vous évader avec les bouquins coup de cœur.
Bonjour auditeurs de Fréquence Mistral. Eh bien, après ces quelques temps d'absence, je reviens vers vous pour vous présenter un nouveau livre. Le titre, Au détour du Caucase, Conversation avec un cheval, un livre de Clara Arnaud, paru aux éditions Gaïa en 2017. Vous connaissez notre action Livre Nomade. En deux mots, nous choisissons chaque année une douzaine de livres que nous mettons gratuitement à la disposition des auditeurs, de nos lecteurs, qui ne sont pas tous auditeurs, dans différents lieux de Gap et du département. Nous choisissons chaque année ces livres autour d'un thème. Cette année, c'était le roman Écho de notre temps. Et parmi les livres choisis figurait un roman de Clara Arnaud intitulé « À la verticale du fleuve ». Un livre très intéressant qui raconte la construction d'un barrage dans un pays d'Amérique du Sud. Un roman qui montre l'opposition, la confrontation entre les traditions vécues bien souvent par les Indiens, et les changements dans l'Amérique latine d'aujourd'hui. Donc ce livre, vous pouvez le trouver et l'emprunter dans un des lieux relais de la ville et du département. Vous pouvez avoir toutes les indications sur notre site littera05.com. Mais ce n'est pas ce roman que je veux vous présenter aujourd'hui. Je veux vous présenter un autre livre de Clara Arnaud qu'elle a écrit avant À la recherche du fleuve. Elle l'a écrit en 2017. Et ce n'est pas un roman, c'est un récit de vie. Il s'agit donc de Au détour du Caucase, conversation avec un cheval. Mais je fais encore une petite digression avant de vous présenter ce récit. Je trouve qu'il est important que vous connaissiez un peu Clara Arnaud. C'est une jeune femme étonnante. On l'a rencontrée, elle est venue, on l'a reçue à la médiathèque de Savines-le-Lac. Elle est née en 1986, elle a étudié le chinois et la géographie. Toute jeune, à 21 ans, elle était fascinée par le nomadisme. Et c'est comme ça que, très jeune, dès l'âge de 18 ans, je crois, elle part à pied avec deux chevaux, Zéphyr et Éole. Non, ça, ce voyage, elle l'a fait à 21 ans, c'est ce que je vous disais au départ. Elle part découvrir les bordures de la Chine que sont le pays Ouïghour et les hauts plateaux tibétains. Une jeune femme, 21 ans, qui part avec deux chevaux. Toute seule. Non, elle dit qu'elle n'est pas seule, justement. Elle est avec ses deux chevaux. Elle en ramènera un récit de voyage sur les chemins de Chine, paru en 2010 aux éditions Gaïa, et qui s'inscrit justement dans le sillon des écrivains voyageurs. Et d'ailleurs, c'est un livre qui lui vaudra de nombreux prix. À 30 ans, elle reprend la route, direction l'Arménie et la Géorgie, toujours en compagnie d'un cheval. Voyage qu'elle raconte dans « Au détour du Caucase, conversation avec un cheval » aux éditions Gaïa en 2017. Vous voyez, je vous disais que c'était une jeune femme étonnante. C'est vrai, on ne rencontre pas souvent justement une jeune femme qui part avec un cheval dans des pays aussi lointains. Maintenant, elle travaille depuis une dizaine d'années dans le domaine de la coopération pour des projets de développement international. Et ses missions l'amènent très souvent en Afrique, au Sénégal, au Bénin, au Ghana, en République démocratique du Congo. Dernièrement, elle était en mission au Honduras. Et c'est de retour de sa dernière mission, justement au Honduras, où elle est restée de 2016 à 2020, qu'elle a écrit son nouveau roman, « La verticale du fleuve », paru en 2020 aux éditions Actes Sud. Je vous disais donc que nous l'avions reçue dernièrement. Donc nous avions pu discuter avec elle justement de ses voyages et je veux vous présenter aujourd'hui son livre « Au détour du Caucase, conversation avec un cheval ». Je vous lis l'introduction. « Voyager ne sert à rien. Des générations l'ont fait. Des milliers d'hommes et de femmes ont écumé les mers, envahi ce qu'ils pouvaient de territoires étrangers, sont revenus tout aussi ignorants qu'avant, tantôt gonflés d'arrogance, tantôt tête basse, ayant au moins glané en chemin une dose d'humilité. On a beau se pénétrer de cette thèse, elle ne nous convainc pas tout à fait. Et s'il y avait tout de même quelque chose à cueillir dans l'errance ? Alors ça y est, c'est parti, c'est le grand cabotage. Le départ, l'étourdissement du saut dans le vide, le vertige d'être à flanc. Le sac à dos égorgé, à ras-bord, boursouflé de ce que l'on ose appeler le nécessaire, car on ne sait ce qu'est la nécessité. Est-ce un caprice d'enfant gâté ? Est-ce une lubie, un acte de folie ? Ou bien de rébellion ? Est-ce un geste poétique ? Un défi à son corps sédentaire ? Est-ce un coup de tête ? Ou un engagement ? Que va-t-on chercher en se traînant à pied par tous les temps en compagnie d'un cheval ? Il y aura des escales, des rencontres, de la pluie de rue, des jours de froid et du soleil ravageur. On tanguera parfois, on piétinera, on filera au vent les jours allègres. Les semaines dureront une éternité, comme les étés de l'enfance. Puis tout sera déjà fini. Au fond, on se moque de collectionner les rencontres et les paysages, les kilomètres et les courbatures. Partir n'est qu'un prétexte, et l'on pourrait tout aussi bien le faire au pied de chez soi, si l'on était plus sage. L'important, c'est le rythme, les pas qui claquent, ceux du cheval qui leur répondent, ces fragiles instants où l'on coïncide avec l'exacte pulsation du monde. On se dit que l'on tient là un alibi. Alors pourquoi a-t-elle choisi ces lointaines contrées isolées, essentiellement l'Arménie et la Géorgie ? Elle explique « Mon voyage de 5 mois dans le Caucase en 2016 s'inscrit dans la continuité d'une fascination pour l'Asie centrale au sens large, une région de carrefour entre les cultures chinoises, russes, perses, turques, caractérisée par des paysages d'immensité, une grande diversité de langues et de cultures, beaucoup de montagnes aussi. » Elle marche donc à côté de son cheval qui lui porte toutes les charges trop lourdes pour elle, toutes les charges qui sont nécessaires au voyage. Clara, dans son livre, s'attarde souvent pour dire les bienfaits de la marche. Je vous en lis une page. La marche à pied est un patient exercice d'ancrage en terre. Pour qui est accoutumé à passer d'une activité à une autre sans s'octroyer de temps que l'on dit mort, à être asservi par des outils de communication, à mener une existence fragmentée en somme, se consacrer à une chose aussi élémentaire que mettre un pied devant l'autre n'a rien d'évident. Être tout entier à la marche est d'abord impossible. Le corps vocifère, les pieds endoloris gémissent, les épaules croulent sous le poids du sac, les bras et le dos se cabrent, les cuisses se font lourdes. Mais cette douleur-là est gratifiante, c'est celle du corps à l'œuvre qu'on façonne comme de la glaise. Elle n'est rien face à la difficulté de soutenir mentalement la lenteur de la progression. Au départ, on fait des circonvolutions dans sa tête, ressassant d'insolubles regrets. Puis, on s'étourdit de projets, s'invente 1000 vies. Tous les moyens sont bons pour échapper à l'intolérable présent, à l'espace écrasant d'immensité. Puis, peu à peu, l'esprit devient plus clair. Il s'ouvre au monde, va chercher au dehors de quoi se nourrir. Il s'accroche au ramage, épouse le vol des oiseaux. Il se fond dans les pierres, décortique les reliefs rocailleux. Il guette le va-et-vient des bêtes et des hommes. Par instant, le flot des pensées s'interrompt. on se fond tout à fait dans la terre que l'on foule, comme si elle insufflait son énergie à la verticale du corps. La marche est une activité à contre-temps d'une époque pressée et d'un certain sens commun. Pourquoi aller à pied dans des chemins boueux et colonisés par les ronces quand les autoroutes déroulent leurs impeccables horizons de goudron? Pourquoi mettre des jours, des semaines à réaliser un trajet qui prendrait en véhicule quelques heures? Que cherche-t-on dans la monotonie des kilomètres qui s'égrènent, la traversée d'interminables campagnes? Où va-t-on donc? Mais nous le savons au fond. On marche pour prendre l'exacte mesure de ce dont la terre est faite, de la morphologie de chaque vallée, de la teinte de leurs flancs soumises aux variations des rayons du soleil. On marche pour appréhender l'étendue des steppes et la vigueur des vents. Réhabiliter une expérience du monde au ras du sol, un privilège. Alors que tout un chacun peut lorgner d'en haut les images sans relief de Google Maps. Alors beaucoup de personnes rencontrées ne comprennent pas. Une jeune femme seule qui marche à côté de son cheval? Mais pourquoi ne le monte-t-elle pas? Pourquoi ne prends-tu pas une voiture? Tu as du temps à perdre ou quoi? Et elle leur répond: mais c'est que je ne cherche pas à le gagner, le temps, moi. Je préfère le savourer, sentir chaque kilomètre dans mes voûtes plantaires. Je veux imprimer le territoire dans mon corps. Je veux me fondre si bien au paysage que les chiens viennent mendier des caresses, que les vaches me regardent passer sans siller, que même ce pic dans l'arbre ne s'enfuit pas à mon passage. Et jouir des nuits de pleine lune lorsque, le campement enfin monté au bord d'une rivière, je suis envahie par une fatigue colossale, un délicieux épuisement, la sensation d'avoir 1000 ans. Et puis il y a ceux qui sont perplexes. Une jeune femme seule comme cela, ce n'est pas bien, non, ce n'est pas bien. Que peut faire une femme en âge de fonder une famille à se promener dans les montagnes, affublée de godillots boueux? Les gens sur la route ne sont pas tous fréquentables. Et ton mari, il n'est pas avec toi? Ce sont des réflexions qui, bien sûr, font beaucoup rire Clara. Alors, le sous-titre du livre, c'est « Conversation avec un cheval ». Si vous lisez le livre, vous verrez que les chevaux jouent une place centrale dans la vie de Clara. Elle le dit. Leur contact est nécessaire à mon équilibre. Comme beaucoup de passionnés, leur odeur, leur fréquentation. Quand je voyage avec des chevaux, je fais le choix de la lenteur. Je chemine extrêmement progressivement, ne m'épargne aucun morceau du territoire. C'est une expérience de la continuité, une manière de pénétrer la géographie des lieux. Clara a des échanges avec son cheval, mais des échanges silencieux. Elle lui parle intérieurement, sans toujours prononcer les mots. Elle lui dit sa joie d'arriver au sommet d'un col, de repartir le matin au petit jour. Elle l'écoute aussi. Elle écoute le bruit de ses pas, sa respiration, pour savoir s'il va bien, s'il se sent bien. Quand il est un petit peu excité, elle chantonne pour le calmer. Elle le caresse sur l'encolure quand un camion fait trop de bruit quand il passe à côté d'eux. Et puis, le cheval la protège de son flanc quand la tempête est tellement violente. Elle se met contre le flanc du cheval pour se protéger. Elle écrit: il est difficile de décrire la sérénité que procure en moi la compagnie des chevaux, leur odeur qui imprègne jusqu'à la peau, la chaleur de cette masse musculaire prête à détaler dans un mouvement explosif. Leur vulnérabilité, en dépit de la puissance qu'ils dégagent, justifie le pacte qu'ils concluent avec les hommes. Ils cherchent la subordination, sont enclins à s'aligner derrière celui qui leur offre une protection. L'étrangeté de cette relation de couple me fascine. Le temps qu'exige la confiance pour s'installer, la droiture qu'elle impose. On ne trahit pas un cheval, car alors, il n'y a pas d'explication possible. Plus qu'une abyssale méfiance que nul pardon ne viendra combler. Les chevaux sont imperméables au chantage et aux manipulations du langage. Ils n'oublient pas la peur ou la douleur. Ils ne tolèrent pas les trahisons. En fait, Clara a eu deux chevaux pendant son périple à travers le Caucase. Elle a été obligée de se séparer du premier, Boy, parce que les formalités administratives duraient une éternité pour lui faire passer la frontière entre l'Arménie et la Géorgie. Le second, Davai, elle l'a acheté dans un grand marché aux animaux et lui aussi elle s'en séparera à la fin de son voyage. Quand Boy la quitte, je dirais, parce qu'elle l'a vendue, mais à quelqu'un qui semble aimer les chevaux, donc elle était quand même rassurée, mais elle avait mal quand même. Elle dit « J'ai fermé les yeux ». Je n'entendais plus que le claquement des sabots amortis par le sol boueux. Le second, elle l'a acheté dans un grand marché aux animaux, et lui aussi elle s'en séparera à la fin de son voyage. Quand Boy l'a quitté, elle avait les larmes aux yeux. Elle nous dit « J'ai fermé les yeux, je n'entendais plus que le claquement des sabots amortis par le sol boueux. » J'aurais pleuré si une pudeur ne m'avait pas retenue de le faire en public. Et sa peine sera la même quand elle se séparera du deuxième, donc Davai. Les deux séparations, c'est pour elle un arrachement, parce qu'on peut dire qu'elle avait établi des relations tout à fait particulières avec ses deux chevaux. Je n'ai jamais été seule. Deux chevaux m'auront escorté durant ces mois de marche, deux fortes têtes avec lesquelles j'ai tenu d'interminables et silencieuses conversations. Le cheval est un animal très prisé dans ces pays, et le fait d'arriver dans les villages avec un cheval à ses côtés lui donnait une certaine aura, la protégeait. Le cheval facilite le contact avec les gens du pays, il y a beaucoup d'éleveurs et de paysans qui vivent encore avec des bêtes. Et ils viennent vers elle, ils caressent le cheval, bien sûr, et ils lui parlent. Le cheval permet une sorte de prise de contact avec les gens. Les Arméniens sont impressionnés de me voir mener Boy. Je ne suis plus une piétonne vagabonde, mais la tête d'un troupeau minuscule. J'ai la sensation d'avoir gagné le statut de meneuse de cheval. Alors elle ne traverse pas toujours de beaux paysages de montagne. En Arménie, par exemple, elle traverse des villes ou des friches industrielles, des bâtiments en ruines, des banlieues défraîchies rappellent l'époque révolue de l'URSS, quand il y avait un marché florissant, justement, entre l'URSS et l'Arménie, marché qui n'existe plus à l'heure actuelle. À un moment, elle raconte qu'elle est tombée sur une décharge à ciel ouvert au milieu d'une magnifique vallée, des ordures accumulées au bord des routes. Ce sont là les souillures de l'homme partout où il s'installe. Mais à côté, elle décrit des paysages grandioses, magnifiques, essentiellement des montagnes recouvertes de forêts et de neige à leur sommet. Ces paysages grandioses lui font prendre conscience de la petitesse de l'homme. Elle écrit « La pratique de la montagne est un exercice de disparition, on y fait chaque jour l'expérience de son insignifiance. Avec son cheval, elle essuie très souvent des orages dévastateurs, de véritables tempêtes. Elle écrit « Alors que je m'étais réfugiée dans mon duvet, un violent orage a éclaté. Je me suis trouvée rassurée de sentir la force des éléments, comme si le déferlement d'eau sur la toile de la tente, les vibrations flamboyantes du tonnerre et les éclairs qui illuminaient les parois de roche confirmaient l'existence d'une force supérieure. Je me suis endormie comme dans un navire à la dérive. » Clara insiste beaucoup sur la chaleur de l'accueil qu'elle reçoit. Les portes s'ouvrent pour l'accueillir, même dans des maisons très modestes. Il y a toujours un lit pour elle, avec des couvertures épaisses qui sentent la poussière, puis des fois le moisi. Les repas sont partagés avec les fameux raviolis d'Arménie, les kindali. Elle sait décrire beaucoup d'émotions qui se dégagent de ces rencontres. Elle dit « J'ai la sensation d'être tout à fait à ma place. » Elle parle beaucoup avec les gens, elle connaît un petit peu le russe, elle connaît le chinois. Les gens en face d'elle, certains connaissent un petit peu de français, un petit peu d'anglais. Et ça permet d'avoir des échanges. Souvent, les gens lui disent leur angoisse, leur peur. Elle est restée toute une semaine chez Artyom, un Arménien, dont le fils était sur le front d'une guerre contre l'Azerbaïdjan. Et par exemple, elle a préparé avec la famille un colis avec des gâteaux, des fleurs, des pâtes, du Coca-Cola, pour le faire passer clandestinement, justement, au fils qui était au front, le jour de ses 18 ans. Les anciens n'hésitent pas à lui dire leur inquiétude sur ce qui se passe avec Daesh. On est en 2016, rappelez-vous, on est en 2016. Ils ne comprennent pas que les nouvelles générations, souvent désœuvrées, partent rejoindre Daesh en Syrie. Certains reviennent, d'autres non. Clara a des mots très simples pour traduire l'émotion qui l'étreint quand il faut quitter ceux qui l'ont reçu si chaleureusement. On cache ses larmes, aussi bien d'un côté que de l'autre. On promet de revenir. « Tu reviendras nous voir, » dit. Ce qu'elle vit, en fait, c'est tout le contraire du tourisme de masse, des voyages organisés, où la façon de voyager est standardisée, ce qu'elle appelle un anti-programme de voyage. Elle ne va jamais à l'hôtel, elle est toujours reçue dans les maisons. Elle ne s'attarde jamais trop longtemps sur les émotions qui sont les siennes, quand par exemple elle se sépare de ses chevaux, quand elle quitte une famille, la famille de Nino, avec qui elle a eu des contacts très chaleureux justement. Quand elle les quitte, elle a les larmes aux yeux. À un moment, elle participe à une course de chevaux. Elle a accepté de participer et elle traduit justement l'émotion qu'elle ressent quand elle est lancée dans une course folle, accrochée à l'encolure de son cheval. Elle terminera bonne dernière, mais ça fait rien, elle a participé, elle est allée jusqu'au bout. Parfois, elle s'attarde un peu plus longuement, par exemple quand une nuit dans la forêt, une peur panique s'est emparée de son cheval. Je vous lis le passage. Au milieu de la nuit, alors que j'ai cédé au sommeil avec difficulté dans cet environnement de chlorophylle, elle a mis sa tente au milieu de la forêt. Je suis réveillée par le martèlement furieux des sabots sur le sol. Une cavalcade désordonnée qui va et vient autour de la tente. Envahi par la panique, le cheval souffle, trépigne. Il s'égare dans un trot désordonné brusquement arrêté par le licol qui le retient. Il s'immobilise quelques instants, fixe la forêt engloutie, un abysse. Puis il repart à grands pas, fait demi-tour, revient. Étonné par la panique qui s'est emparée de l'animal, d'ordinaire impassible, je me précipite hors de la tente, lampe frontale sur la tête, et me chausse en hâte. Le cheval manque de peu de renverser mon refuge à chacune de ses allées et venues. Je susurre des phrases sans queue ni tête pour l'apaiser. Il fixe une direction dans la pénombre. Armé de ma lampe frontale, j'avance timidement vers la masse arborée à l'orée de la clairière. Je balaie le périmètre d'un éclat de lumière, tentant de contrôler l'angoisse qui m'a saisie, cette peur viscérale qu'agitent les spectres des contes de l'enfance, la nuit et les monstres, les bois et les loups. Une peur étourdissante, décuplée par le comportement du cheval. Je suis la direction de son regard, et dans le halo lumineux, je vois se refléter deux taches jaunes dans le noir. Les feuilles bougent, la forêt se gondole, le cheval continue à trépigner de terreur. Je braque de nouveau le faisceau vers les arbres, mais le visiteur est parti. Peut-être n'est-ce qu'un renard, une biche inoffensive. Je tente de me rassurer. Peut-être y a-t-il un loup, pensais-je, saisi par la panique. Qu'est-ce qui expliquerait sinon la terreur du cheval? Les chevaux savent, ils sentent. Mes questions se heurtent à la masse mouvante de la forêt. On entend des frémissements, le bruit des branches qui craquent, des animaux qui se meuvent. Il n'y a que la fragile paroi de la tente où se réfugier. Le cheval s'est de nouveau immobilisé, sa respiration est saccadée, sa peur me contamine. Je reprends mes esprits, tentant de me raisonner. Je n'ai jamais eu peur d'aucun animal. Les loups ne s'attaquent pas aux hommes, ils sont trop conscients de leur nocivité. Je m'approche de Davaï et lui caresse doucement l'encolure, sans effet. Il refuse de tenir en place, comme si le mouvement le protégeait. Il trépigne, laboure le sol en cadence. Incapable de raisonner le cheval et de me rendormir, je me résigne à veiller. Je fais un feu sur le petit réchaud à bois, me prépare un thé au miel d'Arménie en chantant. Tout en le sirotant, je tambourine sur une casserole cabossée, m'égosillant pour faire peur à un hypothétique prédateur. Partir en voyage à pied, quelle idée! Pour se retrouver seul au milieu de la nuit, à chanter faux en jouant des percussions avec une casserole. Pour lutter contre les cauchemars de l'enfance dont seul le petit jour peut nous délivrer. Au matin, l'ennemi invisible s'est évaporé. La forêt semble de nouveau hospitalière sous un doux soleil de printemps. Nul ne m'a attaqué, hormis des hordes de moustiques qui se sont régalés de ma veillée. Restituer une émotion, c'est un travail d'orpailleur, dit-elle. Un jour, son appareil photo tombe en panne. L'occasion pour Clara de prendre conscience de la valeur de l'écriture. Tous les jours, ou presque, elle écrit pendant son voyage. Et naîtra de ses écritures, bien sûr, ses récits de vie. L'écriture est le lieu de toutes les libertés, celles que l'on s'autorise par rapport au réel, en reconstituant, interprétant, travestissant, embellissant, se défiant de la matière brute des choses. car il s'agit avant tout de donner une forme poétique à la vie, de lutter contre l'effacement. Je ne pourrai plus photographier ce voyage, mais j'écrirai encore des textes. J'y mettrai des montagnes, l'odeur des chevaux, un peu de café turc et la sensation de la pluie s'abattant sur le corps en mouvement. On laisse le dernier mot à Clara quand, en conclusion, elle se demande ce qu'elle fait là, pourquoi elle est partie. Mais la route ne dit rien, elle est taiseuse. Elle ne fait que poser des questions. Alors, on finit toujours par repartir. C'était donc au détour du Caucase, conversation avec un cheval, Clara Arnaud, aux éditions Gaïa. Merci pour votre écoute. À bientôt.
Lord, I've done so much wrong. But please give me strength to care.